L'Évangile de Luc, au chapitre 7, et au verset 1er, nous avons une histoire où c'est le seul texte dans la Bible où il nous est dit que Jésus a admiré un homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette précision qui est voulue du Saint-Esprit, parce qu'on en a besoin, c'est la seule fois, même si Jésus a parlé de certaines personnes d'une manière élogieuse. Lisons donc cette histoire, s'il vous plaît, et approprions-la nous, afin que nous puissions faire des progrès. Luc, chapitre 7, verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier, alors pour ceux qui l'ignorent, un centenier, c'est un officier de l'armée, comme un capitaine aujourd'hui, qui dirige 100 soldats. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Vous gardez le texte, s'il vous plaît, et vous venez avec moi dans l'Épître aux Hébreux, où il nous est rappelé ceci. Je pense que c'est bien que nous le relisions, même si on le connaît par cœur. N'oubliez pas que c'est quelque chose de vital pour notre marche avec Dieu. Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. Hébreux chapitre 11, où il nous est parlé d'Enoch, cet homme qui a été enlevé à cause de cette foi qu'il avait, qui avait décidé à un moment donné de sa vie de marcher avec Dieu. Et pourtant ça allait mal, croyez-moi. Hébreux 11, versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, lisons-le, mes frères et sœurs, avec beaucoup de cœur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand il est dit « il faut », c'est un impératif, je précise quand même que c'est le minimum. Dieu ne demande pas que celui qui s'approche de Dieu doit faire telle et telle et telle et telle chose. Il demande juste une chose. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte encore une fois de plus cette bonté de Dieu qui demande le strict minimum pour pouvoir obtenir sa grâce. Alors, je pensais aussi qu'on pourrait lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, c'est une épître sur le retour de Jésus-Christ, mais en même temps dans cette lettre, Paul dit certaines choses et ça vaut la peine que nous les lisions. On ne va pas tout lire, c'est le chapitre 3. Par contre, vous pourriez le lire en entier, ce chapitre 3. Parce qu'il est émaillé de cette pensée qu'il faut que Dieu complète en nous ce qui manque à la foi. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, c'est une bonne église thessalonique. C'est une très bonne église. Et pourtant, même si nous avons fait des progrès, il n'empêche que nous avons encore des choses à apprendre. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, regardez au verset 2. « Nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » J'entends les pages qui tournent. Donc, voyez le verset 2. Timothée avait été envoyé dans cette église, vous voyez la fin du verset 2, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Au verset 5, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi. » Oui, c'est important. « Dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. » Verset 6, « Mais Timothée, récemment arrivé ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. » Verset 7, « En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, » vous voyez, on peut être chrétien et être dans les angoisses et dans les épreuves, mais ça on le sait, « nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. » Verset 10, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Et plusieurs fois dans la Bible, nous voyons cette affaire, voyez, ce désir que nous avons de nous exhorter les uns les autres, voyez, de compléter ce qui manque à votre foi. C'est important la foi, mes frères et sœurs. La religion, aller à l'église, c'est une chose, mais voyez, si on vient pas par la foi, comme le dernier don que nous avons entendu, ou l'avant-dernier, eh bien, il s'avère qu'on peut venir tomber dans le péché, tomber dans la religion, etc., et ça va pas nous aider. La foi, c'est quelque chose dont nous avons besoin de partager ensemble. La foi, c'est quelque chose que nous pouvons gérer nous-mêmes. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. La foi, c'est quelque chose de sérieux, de beau. Dieu vous l'a donné. Vous avez tous reçu une mesure de foi. Édifiez-vous vous-même. C'est vrai que nous devons veiller les uns sur les autres et nous exhorter les uns les autres. Regardez ce que Paul dit aux Thessaloniciens et ce que Timothée fait par rapport aux Thessaloniciens. Mais nous devons quand même nous appliquer nous-mêmes. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde extrêmement difficile. Nous sommes dans des temps difficiles. Ça ne veut pas dire impossible, mais c'est quand même difficile. C'est écrit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est quand même écrit. Donc, dans ces temps difficiles, il faut que nous veillons sur nous-mêmes, veillons sur les autres. C'est important de veiller les uns sur les autres. Éprouvez-vous vous-même, pas pour savoir si ce qui s'est passé dans le passé. Je le dis parce que ces temps-ci, j'ai remarqué, je ne sais pas si ça vient de personnes qui s'embarquent un peu dans la psycho, la mauvaise psycho. Mais dans la Bible, vous ne voyez jamais, écoutez bien mes frères et sœurs, c'est archi important ce que je vous dis. Vous ne voyez jamais Jésus demander quelque chose par rapport au passé. Jamais. Et moi je vous le dis, ne vous embarquez pas à tout le temps chercher dans le passé des trucs, des machins, des problèmes qui se ressurgiraient. Quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Le Seigneur a tout effacé, tout. Et cherchez dans la Bible. Moi, quelqu'un un jour m'a dit, monsieur Gou, il y a deux textes qui parlent de... Eh bien, dites-moi lesquels. Justement, celui que je viens de citer. Qu'est-ce qu'il dit? Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes où. Dans la foi, donc, dans la confiance. Mais regardons nous-mêmes si nos yeux sont fixés, pas en arrière. Parce que regarder à la foi, c'est regarder en avant. Et quand dans le cadre de la Sainte Cène, il est dit ce deuxième texte qui pourrait nous laisser supposer qu'il faut regarder dans le passé, c'est faux. Éprouvez-vous vous-même, ça veut dire, c'est la même chose. Je prends le pain et le vin, Seigneur, comme nous l'avons entendu tout à l'heure lorsque Jérôme Fabio nous a présenté la Sainte Cène, nous avons un Dieu qui est devenu notre Père, nos yeux sont fixés sur l'avenir. Que son nom soit béni. Le juste, il ne vivra pas parce qu'il va tous les dimanches à l'église. Le juste, il vivra par sa foi. Cette foi qui doit être vivante. Dieu demande la foi. La foi pour lui plaire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Par la foi, nous plaisons à Dieu. Et n'oubliez pas aussi que par la foi, nous pouvons tout obtenir. Vous pouvez le calculer comme vous le voulez, mais c'est quand même une vérité. On peut tout obtenir. Ce qui est écrit est utile. Ces textes qu'on a lus, le témoignage de ce centenier, Jésus a fait des milliers de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais si c'est écrit dans la Bible, c'est qu'on en a besoin. Jésus parle de cet homme qui n'était même pas encore un chrétien. Peut-être qu'il est en voie de le devenir, ça c'est sûr. Il parle de cet homme qui a une grande foi. Donc, notre foi, elle peut être plus ou moins grande. Vous le reconnaissez. Dieu a donné à tous une mesure de foi, mais est-ce que ma foi grandit? Ou est-ce que je suis en train de perdre la foi? La Bible parle de gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et sincèrement, au-delà de la connaissance que nous avons, car nous avons reçu beaucoup de connaissances, ce matin nous allons avoir un enseignement sur la foi. Ça sera quelque part de la connaissance, d'accord? Mais est-ce que je vis par la foi? Est-ce que cette foi, elle grandit? Quand vous regardez les lettres, en fin de compte, c'est que pour nous communiquer la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ, de la parole de Christ. Nous devrions tous nous poser la question, est-ce que je cherche à voir ma foi grandir? Est-ce qu'elle grandit, notre foi? Est-ce qu'elle grandit? C'est de notre responsabilité, mes frères et sœurs, de faire valoir cette foi que Dieu nous a donnée. Donc ce texte, il est dans les Écritures. Ce texte, il est là pour nous montrer ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Vous avez vu le comportement des Juifs qui disaient certaines choses et lui qui en disait d'autres. Donc, la foi, elle s'exerce comment, la foi, dans ce texte? Parce que, par exemple, dans ce texte, on voit que cet homme, il aime, voyez, il aime son serviteur. Il aime la nation, donc c'est une foi, c'est évident, qui doit s'exercer dans l'amour. Et là, dans ce texte, ce n'est pas parler de l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. Bien sûr que nous aimons Dieu, bien sûr, tous. Mais nous pouvons aimer Dieu, dit la Bible, et ne pas aimer notre prochain. Ce n'est pas écrit? Il y a ce paradoxe, ces combats, c'est des combats. Ne mettons pas tout sur le dos de l'hypocrisie. Ça serait pas bien. Il n'empêche qu'il y a des vrais combats par rapport à cette affaire. Mais que là, cette grande foi dont parle Jésus est vraiment liée à l'amour du prochain. Et une foi qui ne repose pas sur l'amour du prochain est une foi incomplète. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont en vrac avec leur vie spirituelle parce qu'ils ne s'appliquent pas à compléter, comme on l'a lu tout à l'heure, à ceux qui manquent à leur foi. Une foi, une vraie foi, qui fait abstraction de l'amour du prochain, est une foi qui n'ira pas bien. Elle ne plaira pas à Dieu. Vous voulez plaire à Dieu? Nous voulons plaire au Seigneur, vraiment. S'il y a une des raisons pour laquelle nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous voulons nous appliquer à plaire à Dieu. Parce que l'amour, c'est important, mes frères et sœurs. L'amour pour Dieu, mais l'amour pour le prochain aussi. Je veux m'appliquer à aimer davantage mon prochain. Les gens qui sont le plus proches de moi, mais les gens qui sont loin aussi. Mais en fait, je veux m'appliquer à aimer les prochains. Parce que l'amour nous permet de ne pas nous décourager. Vous avez remarqué, enfin, écoutez, est-ce que ça vous arrive de vous rendre compte que vous manquez d'amour pour celui qui est à côté de chez vous? Pour votre prochain, pour votre conjoint? Est-ce que ça vous arrive? Vous avez vu combien c'est facile de se décourager lorsqu'on manque d'amour pour quelqu'un qui est à côté de nous. Et le diable le sait. C'est pour cela que ce récit nous parle de l'amour du prochain. Et que cet homme, il est dans un processus de vérité. Parce qu'il a choisi d'aimer lui qui avait été formé pour apprendre à haïr. Car les officiers, dans l'armée, ils sont formés pour apprendre à tuer. C'est comme ça que ça marche dans l'armée. Peut-être pas dans tous les corps d'armée, mais je peux vous dire dans certains corps d'armée, vous êtes programmés à tuer. C'est ça l'armée. C'est pour ça qu'avant de vous y engager, faites attention aux choix que vous faites. Vous pouvez être dans le génie, dans le matériel, c'est une chose. Mais faites attention dans certains corps de métier. Mais lui, il a décidé d'aimer. Mes frères et sœurs, la foi, cette grande foi, parce que quand même, c'est important que notre foi grandisse. Si on est prêt quand Jésus va revenir, ce n'est pas parce qu'on est meilleur ou parce qu'on est faible ou parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce qu'on aura gardé la foi. Et cette grande foi, d'où elle vient? Elle vient, eh bien cet homme, il aime un serviteur. Il ne veut pas qu'il meure. Vous savez, les serviteurs, à l'époque, quand vous regardez l'histoire, un serviteur, un esclave, avait moins de valeur qu'un cheval, par exemple. C'était plus facile d'acheter un homme, c'est dingue cette affaire. Hein. C'est triste. Hein. À cette époque-là, on ne s'en rend pas compte, un esclave coûtait beaucoup moins cher qu'un cheval. Il aurait pu le laisser mourir et en acheter un autre. Mais il s'y était attaché. Et mes frères et sœurs, nous pouvons avoir à côté de nous des gens qui sont malades, malades physiquement, mais aussi malades dans tous les domaines. Et je crois que nous devons chercher à avoir une foi qui grandisse. Donne-moi d'aimer, Seigneur. Vous savez, l'honnêteté, ça paye. J'ai du mal à aimer. Ça vous est arrivé des fois de le dire au Seigneur, Seigneur, j'ai du mal à aimer, Seigneur, franchement, il m'énerve. Ça vous est jamais arrivé de dire un truc pareil, Seigneur, il m'énerve tous au boulot. Ça vous est jamais arrivé? Moi, pas ici. Mais est-ce que ça peut arriver, frères et sœurs? Est-ce comment Dieu va interpréter cette prière qui est peut-être maladroite? Mais Seigneur, j'ai besoin, donne-moi de l'amour pour mes serviteurs, pour mes servantes, pour mes supérieurs, pour mes patrons, pour mes employés, qu'importe, pour les gens que je côtoie. Cet homme, je vous dis, c'est un officier, il aime son serviteur, il s'y attachait, c'est écrit, il était très attaché. Donc ça veut dire qu'il le considère. C'est beau quand on considère les gens qui sont à côté de nous. Est-ce que je considère ma femme? Est-ce que je considère mon mari? Est-ce que je considère mes enfants? Ou est-ce que je suis tout le temps en train de leur crier dessus? Je ne sais pas. En tous les cas, cet homme, il est touché par l'épreuve de son serviteur. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup à dire, Seigneur, mais donne-moi de la compassion. Je manque de compassion. Je ne pense jamais aux chrétiens persécutés. Mais ça peut arriver. Seigneur, rappelle-moi. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous rappeler des choses? Parce que moi, je vous fais quelques annonces, vite faites. Tiens, c'est bien le mardi de prier pour les chrétiens persécutés. Bon, je peux oublier moi aussi de le dire. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut nous le rappeler? Peut nous rappeler de prier pour les chrétiens qui sont à Gaza? Vous avez vu le bazar que c'est en ce moment. Ça ne va pas s'arranger. Le bazar qu'il y a en Palestine, le bazar qu'il y a en Cisjordanie, au Liban. Oui, moi je crois que le Saint-Esprit peut nous donner de l'attachement aux personnes que l'on côtoie. Et à celle que l'on ne côtoie pas. En plus, il est dit, vous avez vu au verset 5, c'est quand même un truc de fou ça. Il aime notre nation. Il leur a même bâti une synagogue. Il aime notre nation. Frères et sœurs, c'est écrit. Est-ce que j'aime ma nation? Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit archi pratique, je vous assure. Est-ce que j'aime la nation dans laquelle le Seigneur m'a placé? Cet homme, c'était un Italien, c'était un centenier de la cohorte d'Italien, c'était un Italien, muté à Jérusalem, Capernaum, pour exercer son boulot de soldat. Et malgré l'enseignement qu'il avait eu à haïr l'ennemi, puisque les Juifs étaient des ennemis, lui, il avait décidé non seulement d'aimer ses serviteurs, parce que je pense que ce n'était pas le seul qu'il aimait, il avait décidé d'aimer la nation dans laquelle il était allé travailler. Vous qui venez de l'extérieur, je vous le dis très consciencieusement, vous qui venez d'Afrique ou d'ailleurs, peut-être de pays francophones, mais qu'importe, qu'importe. Pas important ça, quand on est chrétien, il n'y a pas d'Africain ou de Français, d'Arabe ou de Chinois. On est chrétien ou on n'est pas. Mais là, nous voyons un homme qui apparemment n'est pas encore devenu chrétien et qui a fait le choix d'aimer une nation dans laquelle il fait son travail. Est-ce que nous aimons notre nation? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Ou est-ce qu'on est tout le temps en train de critiquer, de se plaindre? Mes frères et sœurs, je sais qu'on peut... Je l'ai déjà dit, j'avais pris l'exemple du 80 km/h. Est-ce que vous êtes pour le 80 km/h ou contre le 80? Non, mais je suis sérieux. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Mais franchement, non, mais c'est pas grave ça. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça n'a aucune importance. Le problème, c'est quand des propositions de loi qui n'ont pas forcément ni queue ni tête, mais franchement, des propositions de loi font que j'en arrive à haïr les membres du gouvernement. Je peux vous dire qu'il y en a une qui pousse à la roue. Que vous soyez pour ou contre, ça n'a pas d'importance. Il faut se soumettre, point barre. Mais mes frères et sœurs, nous devons aimer notre nation. Je ne sais pas si ça vous préoccupe, ça. Peut-être, vous allez peut-être me dire, mais monsieur Hugo, moi, je n'ai pas besoin que Jésus m'admire avec mes casseroles que je traîne. D'accord. Mais vous ne croyez pas que cette foi, elle est agréable à Dieu, que c'est beau quand sur la terre, Dieu trouve par-ci, par-là, des hommes et des femmes qui lui sont agréables? Ça vous intéresse pas de dire, est-ce que je suis agréable à Dieu ou est-ce que c'est difficile? Est-ce que mon comportement, mes réactions font que je suis agréable à Dieu? Eh bien, moi, je trouve que c'est intéressant de chercher à plaire à Dieu. On n'est pas là que pour qu'il nous bénisse. Je crois que c'est important. Il aime notre nation. Il a bâti notre synagogue. Bâtir la synagogue, en plus, nous, on est en plein projet. Aimer la nation, c'est construire une synagogue. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi le gars, il a construit une synagogue? Et vous savez pourquoi? Parce qu'il aimait le peuple de Dieu. Il aimait le peuple de Dieu. C'est beau quand les chrétiens, ils aiment le peuple de Dieu. Oui ou non? Quand on est là, on est... Vous voyez, c'est important. On a vécu ce culte. Bientôt, il va, dans un quart d'heure, 20 minutes, il va s'achever. On va prier pour quelques personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et on va le faire de tout notre cœur. Mais tiens, est-ce que j'aime l'Église? Construire une synagogue, ça veut dire qu'on aime le peuple de Dieu. C'est pas compliqué. Enfin, moi, je suis pas un théologien. Mais ça, c'est vite facile à comprendre. J'aime l'Église. L'Église locale dans laquelle le Seigneur m'a placé. C'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Celui qui n'aime pas son frère, il est où? Dans quoi il est? Il est dans les ténèbres. Alors c'est un truc qu'il faut régler. Il faut le régler. Mais j'aime pas mes frères. Seigneur, je vais en faire un sujet de prière, un sujet de jeûne et prière. Mais je vais attraper cette affaire parce que je veux te plaire. Je ne veux pas juste que tu pourvoies mes besoins, que tu sois ce Dieu puissant qui me protège, que tu sois ce Dieu, etc., plein de bonté, qui me fait des faveurs alors que je ne les mérite pas, etc. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi. Éprouvez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, dans la confiance. Il faut absolument que Dieu me trouve debout, comme Enoch, qui était dans une génération. C'était avant le déluge, je peux vous dire que c'était grave, hein. Mais il avait décidé, pendant 305 ans, il a marché avec Dieu. Un jour, ça lui a pris, ça a marché longtemps quand même, hein. C'est bien. Hein. L'amour, c'est quelque chose d'important, vous voyez, il aime son serviteur, il aime la nation, il aime le peuple de Dieu. C'est révélateur tout ça, d'un état d'esprit que l'on peut développer. Notre frère Jérôme rappelait pendant la Sainte-Seine, le premier mobile de Dieu, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça prouve que cet homme, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. C'est important parce que quand on est chrétien, il y a un grand danger, très 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 grand danger, c'est de devenir religieux. Vous allez me dire, non, monsieur, moi je ne suis pas tombé. Écoutez bien la suite, s'il vous plaît. Parce que moi le premier, j'en ai honte bien sûr, mais ça ne me gêne pas de vous le dire, je me suis fait piéger par cette affaire. On se fait tous piéger. Écoutez bien la suite, s'il vous plaît. Écoutez bien. Cet homme, pour moi, il n'était pas encore converti, mais il avait fait des choix. Comme Corneille, vous vous rappelez Corneille? C'était un centenier. Lui aussi, c'était un officier de l'armée romaine. Il nous a dit que cet homme, il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. C'est un officier. Je bénis Dieu aujourd'hui de m'être engagé par bêtise pour fuir ma famille dans une compagnie de combat. Je pensais que ça allait me faire du bien, vous voyez. Et ça me permet de comprendre ce qui était dans l'armée. Et il nous est dit de cet homme, Corneille, je cite ces deux officiers, pourquoi? Parce que ben, ce n'est pas unique, ça peut arriver à plein de gens. Corneille, il avait la crainte de Dieu. C'est un choix qu'il a fait. C'est un choix, vous inquiétez pas, ça n'y est pas tombé dessus. Il avait la crainte de Dieu. Et il l'exprimait, vous le lirez dans Actes 10, si je ne me trompe pas, et il l'exprimait par des prières et par des aumônes. Vous voyez, lui aussi, il aimait le peuple de Dieu. C'est important. Ces deux hommes, comme le centenier qui nous préoccupe, ils avaient fait un choix. Ils avaient choisi d'aimer. Mais ils n'avaient pas fait que ce choix. Parce qu'on peut choisir d'aimer, c'est tout. Cet homme, il avait fait le choix d'être humble. Vous savez, Jésus l'a dit, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Être humble, choisir d'être humble, malgré la position. Vous allez me dire, oh, ce n'était pas un général, c'était juste un capitaine. Ça ne fait rien. C'était quand même un homme qui dirigeait une centaine de soldats et de sous-officiers. Il avait décidé, malgré ses responsabilités, d'être humble. Je ne sais pas la responsabilité que vous avez ou que vous aurez, mais nous pouvons tous choisir d'aimer et de devenir humble. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, parce que ce que je vais vous dire, moi, ça m'a travaillé longtemps. C'est un paradoxe de fou. D'un côté, les religieux, ils sont là, ils auraient, eux, dû être dans la vérité, vous êtes d'accord ? C'est des religieux. Ils vont trouver Jésus et ils vont lui parler de cet officier. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Parce que beaucoup de chrétiens sont en souffrance à cause de ce que je vais vous expliquer. Lorsqu'on est chrétien, qu'on le veuille ou non, c'est pas méchant, au contraire. C'est pour ça que c'est le gros piège. Nous voulons plaire à Dieu, jusque-là ça va. Mais le problème, c'est que nous finissons par croire qu'il faut mériter. Écoutez-moi bien. Qu'il faut mériter telle bénédiction. Vous avez vu, il mérite que tu lui accordes cela. Les religieux qui ont la loi de Dieu. Écoutez bien, frère, écoutez-moi bien, je vous supplie. Parce que ça peut vous délivrer et nous ramener dans la grâce et la miséricorde. Les religieux disent, il mérite. Il a fait ça, tu parles, il a construit la synagogue, il mérite. Ouais, bon. Lui, qui n'est pas encore chrétien, écoutez bien, mais qui a choisi l'humilité et qui a choisi d'aimer. Il dit, non, je ne mérite pas, vous avez vu. Non, je ne suis pas digne. Donc, il y en a un qui a tort. Et normalement, qui c'est qui aurait dû avoir raison ? Les religieux. Vous êtes d'accord avec moi ? Mardi soir, nous avons parlé de la façon dont les Juifs étaient furieux, remplis de colère. Quand Jésus, dans la synagogue de Nazareth, son premier sermon, il parle, tout le monde est émerveillé, puis tout d'un coup, il dit, mais vous vous souvenez ? Du temps du prophète Élie, il y a eu une grande famine. Et le prophète n'a été envoyé que vers la veuve de Sarepta, au Liban. Et pas vers le peuple de Dieu. Alors ils étaient furieux, parce que Jésus était en train de leur dire, votre religion, elle vous a servi à rien. Tandis que cette étrangère là-bas, cet arabe au Liban, Dieu lui a envoyé le prophète pour la bénir. Ils ont été furieux. Ils auraient dû dire, mais c'est vrai, notre religion, elle ne sert à rien. Oui, ils ont voulu le tuer. Vous savez qu'ils l'ont amené en haut de la montagne pour le précipiter. La religion, mes frères et sœurs, c'est archi grave. Et je voudrais que nous soyons super sérieux de comprendre que cet homme qui est sur la voie du salut, c'est évident. Mais à cause des choix qu'il a faits, c'est-à-dire d'aimer et d'être humble, il est sur la voie de la vérité. Et les religieux qui, eux, devraient être dans la loi de Dieu, ils sont dans le mensonge. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, ils méritent que tu lui accordes cela. Ce qui prouve que l'humilité et l'amour, écoutez bien, frères et sœurs, c'est vachement important, l'humilité et l'amour nous conduit dans la vérité. C'est important. Pas une humilité de façade, je fais semblant là, de marcher un petit peu voûté pour montrer que je suis, ça c'est du pipeau. Une humilité de cœur, une humilité vraie. Comment peut-on parler d'une grande foi si on ne cherche pas à être humble devant Dieu ? Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. D'ailleurs, vous le savez, les gens bénis que vous rencontrez, vous en rencontrez de temps en temps des gens qui sont bénis. Vous avez remarqué qu'ils sont presque tous humbles, oui ou non ? Et pleins d'amour. Les religieux, vous voyez, comment ils s'approchent ? C'est parce que nous aussi, on est des chrétiens. Ils s'approchent de Jésus, ils méritent. Ils méritent que tu lui accordes cela. Et lui, il dit, je ne suis pas digne. Donc, ça veut dire, je ne mérite pas. Être chrétien, frères et sœurs, ça fait réfléchir quand même. Être chrétien et être dans l'erreur. Est-ce que franchement, nous aussi, parfois, soyons honnêtes, frères et sœurs, nous ne sommes pas dans la religion du mérite. Je mériterai ça. Ce mois-ci, j'ai beaucoup donné à l'Église. Peut-être que Dieu me bénira un peu plus. Ce mois-ci, je n'ai pas donné. Je n'ai pas pu donner, j'ai eu un problème financier, je n'ai pas pu donner ma dîme. Je ne mérite pas. Que vous le vouliez ou non, on est quand même un peu influencé, oui ou non. Soyons honnêtes. Et ça, ce n'est pas bon, frères et sœurs. Ce n'est pas bon du tout. L'humilité, je peux vous dire, quand vous voyez ces textes, parce que ces textes, ils sont là pour... On en a besoin. L'humilité, ça vous approche de Dieu, ça vous approche de la vérité, ça vous maintient dans la vérité. Personne ne mérite quoi que ce soit. On ne mérite rien. Si, on mérite quelque chose. On mérite tous le jugement. On mérite tous que Dieu nous traite selon nos péchés. Oui ou non ? Et pourtant, il ne nous traite pas selon nos péchés. On ne serait pas là. C'est ça la miséricorde. Et cet homme, il s'est passé quelque chose. Il a dit, écoutez, ce n'est pas compliqué au niveau du témoignage. Ayant entendu parler de Jésus. La Matthieu s'est dit comment ? Oh, pardon. Pareil. Il a entendu parler de Jésus. Le témoignage, mes frères et sœurs, là, ça nous interpelle à nous quand même. Notre témoignage. Est-ce que, lorsque nous parlons de Jésus, nous reflétons ce témoignage? Parce que cet homme, il a entendu des chrétiens. Il était là, il commandait ses troupes. Peut-être des fois, il se promenait avec toute sa compagnie. Je ne sais pas comment il faisait. Mais il a entendu. Il a entendu, c'est obligé, c'est écrit. Il a entendu, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, monsieur l'officier, j'étais dans un état de mort. Jésus m'a guéri. Ah bon? Il a entendu parler de Jésus. Quel grâce. Il a entendu parler de quoi? Eh bien, il a entendu parler de la grâce. C'est obligé. Et de la miséricorde. Et mes frères et sœurs, je vous le dis vraiment de tout mon cœur. Vous et moi, si nous avons besoin de quelque chose, c'est de grâce et de miséricorde. La grâce, c'est la faveur imméritée. Les pécheurs ont besoin que de ça. La grâce, c'est-à-dire je ne mérite pas le salut, Dieu me le donne. Mais on n'a pas besoin de la grâce que pour obtenir le salut. On a besoin de la grâce tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et il dit oui. Il ne dit pas le bonheur et la grâce. Il dit oui. Ça veut dire c'est obligé. Les oui dans la Bible, ce n'est pas juste pour ponctuer. C'est pour qu'on comprenne bien. On a besoin de la grâce. Ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment... Moi, vous voyez, j'ai passé une mauvaise semaine. Mais ça m'est égal. Je sais très bien que la grâce de Dieu ne dépend pas de la semaine que j'ai passée. La grâce de Dieu, Dieu nous la donne comme ça. La miséricorde, c'est pareil. Oh Seigneur, je mériterai que. Parce que nous, on est forts pour. Et même pour culpabiliser. Faites attention avec vos enfants, mes frères et sœurs. T'as une mauvaise note. T'as eu un 12. Moi, un 12, quand j'avais un 12, c'était. J'ai... Bon, pas grave. T'as eu un 12. Eh bien, je t'aime pas. Je t'aime moins. On l'a entendu, ça. On peut dire, tu as eu une mauvaise note, j'apprécie pas, mais je t'aime. Vous savez, nos enfants, quand on est notre génération, quand on était petit, c'est vrai, il y avait moins de problèmes. Mais aujourd'hui, quand on voit les enfants, ce qu'ils subissent à l'école, il vaut mieux quand ils arrivent à la maison qu'on leur rende un bon témoignage. Beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Parce que je crois que le témoignage, c'est important. Ayant entendu parler de Jésus, je ne sais pas ce qu'il a entendu, mais ce qu'il a dû entendre a dû le faire réfléchir le soir dans sa caserne, lorsqu'il rédigeait ses comptes rendus. Il devait en même temps penser à ce Jésus qui est en train de faire des choses bizarres dans Jérusalem. La vérité, mes frères et sœurs, c'est que la religion du mérite, elle ne doit pas exister dans notre Église. Je vous en supplie, mais je vous le dis, mes frères et sœurs, parce que moi aussi, des fois, je me fais piéger. La grâce, même si ça ne va pas, vous y avez droit. La miséricorde, même si vous avez quelques casseroles en trop, vous y avez droit aussi. Pourquoi David a été restauré? Pourquoi David qui a fait des trucs franchement graves? Pourquoi cet homme il a été restauré alors qu'il méritait, tout roi qu'il était, il méritait la lapidation? Oui ou non? Pourquoi Dieu l'a restauré? Pourquoi Dieu a réprouvé Saül? Alors que c'était rien ce qu'il avait fait lui. Il avait épargné un roi. En plus, il avait épargné un roi. Ouais. Et il avait épargné des taureaux et des moutons. Et il a été réprouvé. Et David, lui, il a commis l'adultère. Il a magouillé un truc pour cacher cet adultère. Et comme ça n'a pas marché, il a fait tuer un de ses amis, qui était le mari de cette femme. Ça a traîné un an. Et pourquoi Dieu l'a pardonné à lui? C'est pas compliqué. Parce que David, il connaissait la grâce et la miséricorde. Et cet homme qui n'était pas encore, c'est sûr qu'il n'était pas au niveau de David, mais quand même, il connaissait la grâce de Dieu. Et il avait compris ce que c'était la miséricorde. Le problème, c'est que quand on enseigne la religion du mérite, c'est un mensonge. Et les juifs enseignaient, les religieux enseignaient ce mensonge. Et nous aussi, nous pouvons l'enseigner, nous, pasteurs, anciens, etc., qui prêchons. La religion du mérite, ça n'existe pas. C'est diabolique. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. La justice, elle ne s'obtient pas par les œuvres. La justice, elle s'obtient par la foi. Quelle bénédiction. Cet homme, il ne veut rien faire valoir. Non, je ne suis pas digne. Ce n'est même pas la peine que tu viennes. En plus, il dit, mais dis un mot. Il est vraiment dans cette foi. Il ne dit pas, il faut qu'il vienne à la maison. Il faut que ci, il faut que là. Il faut qu'il le touche. Non. On l'a entendu ce matin que Dieu était souverain. Vous croyez que Dieu peut toucher quelqu'un de votre famille qui est malade là maintenant? On va terminer par la prière. Est-ce que dis un mot et mon serviteur sera... Dis un mot, moi je suis qu'un officier, je dirige sans bonhomme. Toi j'ai compris, tu es le Seigneur du ciel et de la terre, tu diriges l'univers entier. Alors écoute, moi je dis un mot, ils m'écoutent tous. Je dis à l'un va, il va, alors, viens, fais ceci. Dis un mot. Il a compris la puissance de Christ. C'est pour ça que Jésus a admiré cet homme. Et si nous nous appliquions, mais simplement, à avoir une foi pleine d'amour, une foi basée sur l'humilité, une foi basée sur l'autorité de Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ? Et si nous, franchement, si nous retenions ces trois choses en disant, mais je te demande pardon parce que c'est vrai, je suis tout le temps en train de me mettre en vrac parce que voilà, il me faut mériter. Non, mes frères et sœurs. La grâce et la miséricorde exigent qu'on n'a rien à mériter, que son nom soit béni. C'est pour ça qu'on a commencé le culte tout à l'heure. Vous savez, on prie un quart d'heure en attendant. Avec ce verset, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir grâce, miséricorde et être secouru. Approchez-vous avec assurance. Mais moi, la première fois que je lisais ça, je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, je disais, moi, m'approcher avec assurance. Mais j'ai compris. Je ne m'approche pas avec assurance parce que je suis bon. Je m'approche avec assurance parce que Dieu fait grâce et miséricorde. Et que je peux m'approcher de lui, il n'y a pas de problème. Lui, il m'accueille. Même si je ne suis pas trop à accueillir. Lui, il m'accueille. Cet homme, il comprend. Mes frères et sœurs, je voudrais ce matin que nous puissions ressortir avec cette grâce, cette miséricorde. Oui, j'ai pu faire ceci. Oui, je vais peut-être donner de l'argent pour la construction de la synagogue. Oui, j'aime le pays, mais de toute façon, Seigneur, mais tout ça, c'est un effet de la grâce de Dieu, si je peux faire quelque chose. Oui ou non? J'ai un peu plus que les autres. Eh bien, merci, Seigneur. Mais ce n'est pas ça que j'ai besoin. j'ai compris que tu étais miséricordieux, que tu étais tout-puissant. J'ai compris que tu es assis, et ça, ça n'a pas changé depuis 2000 ans, que tu es assis sur le trône de la grâce. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous partions tout à l'heure et que ce soir nous nous endormions, que nous repassions ces choses. Je ne sais pas ce gars, comment, cet officier, quel âge il avait, comment il est rentré chez lui, est-ce qu'il avait un super appartement, j'en sais rien. Mais je suis convaincu qu'il a dû rentrer le cœur pétri de reconnaissance. Mes frères et sœurs, on a le même Seigneur. On a le même Dieu que ce centenier qui était en train de découvrir la foi. C'est beau quand même de voir que Jésus a admiré l'homme, parce que les reproches... D'ailleurs, les seuls reproches que Dieu a fait, pour revenir à mon introduction, les seuls reproches que Jésus a fait à des hommes, c'est par rapport au manque de foi. Jamais on voit Jésus faire des reproches à une prostituée, à etc., à un pécheur quelconque. Mais par contre, où est votre foi ? Race incrédule et perverse. C'est toujours par rapport au manque de foi que Jésus fait des reproches, parce qu'il sait qu'on se prive de cette grâce. Mais là, il a admiré cet homme. Je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez que Jésus vous admire? C'est une question, elle est bête, je ne sais pas, elle vaut quelque chose? Elle est bien cette question? Je ne sais pas si elle est bien. Mais enfin, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et croire que ce que nous venons de partager, c'est la réalité, à cause de sa grâce, à cause de cette miséricorde, à cause de sa puissance. Oui, dis un mot. Jésus a dit à Pierre, viens, un mot. Et Pierre a marché sur l'eau. Il n'y a pas eu un besoin d'un discours de 3 minutes ou de 3 heures. Viens. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui dit, oui, je crois que l'amour, l'humilité, l'autorité de Dieu feront la différence.